partout au Québec. Vous écoutez l'effet Normando. Voici Nathalie Normando.
Je vous souhaite un très bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à cette deuxième heure d'émission. Avant d'aller à notre prochaine invitée, je tiens à rassurer Christian, Marc, entre autres. Vous avez pris le soin de nous écrire pour poser des questions à Pierre-Yves sur régime de retraite, REER et tout ça. Ne vous inquiétez pas, nous allons inviter à nouveau Pierre-Yves pour un spécial comment maximiser ses revenus de retraite, quelle stratégie à déployer. Enfin, si Pierre-Yves est d'accord, on va faire ça avec vous un peu plus tard. Allons joindre maintenant Dr. Mathieu Simon, les pneumologues, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour à vous, Dr. Simon. Alors, on est passé de 1000 cas samedi à 639 aujourd'hui. Dr. Simon, est-ce que vous êtes là?
Je suis toujours là, Mme Normando.
Excellent. Bien, ça me fait plaisir de vous parler. Merci de vous rendre disponible. Vous êtes très généreux.
J'essaye, vous aussi.
Oui, merci. Écoutez, je lisais le courriel, le texto d'une auditrice, Josée, 41 ans. Je ne suis pas préoccupée du tout par notre question en lien avec notre sujet, Dr. Simon. Elle n'est pas préoccupée par la hausse des cas de COVID. Elle dit, c'était prévisible avec le retour en classe et la reprise de certains sports. Évidemment, sa famille étant vaccinée. Quel est le rationnel derrière l'augmentation des cas? Moi, je dois vous dire très candidement là, que j'ai été un peu, pas mal estomaqué de voir qu'on avait franchi qu'on avait 1000 cas samedi. Là, ça diminue de façon importante. Est-ce que, première question, quel est le rationnel derrière cette augmentation? Et deuxièmement, cette diminution est-elle une tendance lourde depuis samedi, selon vous?
Alors, une longue réponse, si vous le voulez bien, mais je vais essayer de me modérer. Écoutez, oui. Je suis d'accord avec votre auditrice. C'est quelque chose qui est entièrement attendu. On a pris la résolution de vivre avec le virus sans se reconfiner. Les écoles sont de retour en présentiel avec quelques mesures de protection. Donc, il y a beaucoup plus d'échanges de microbes qu'il y en avait là, pendant l'été ou plutôt quand on était encore en forme de mesures restrictives. Et la bonne nouvelle, Mme Normando, c'est qu'il y a probablement beaucoup plus de cas que ça dans la population. Vous l'avez vu la semaine dernière, l'INSPQ montrait qu'un Québécois sur trois qui a des symptômes de COVID va aller se faire tester. Alors donc, on peut imaginer que les chiffres qu'on voit représentent peut-être le tiers, la moitié des cas réels dans la population. Et le vrai chiffre, celui qui est important, c'est l'augmentation des hospitalisations. Parce que des cas chez des personnes déjà infectées, on sait que ce ne sera pas des infections graves. Et la majorité des gens qui vont attraper le COVID, maintenant qu'on a immunisé les plus vulnérables ou qu'on devrait avoir immunisé les plus vulnérables, ce seront essentiellement des patients relativement en bonne santé qui devraient traverser la COVID dans 98 % des cas sans avoir besoin du système de santé. Le 2 % demeure immense parce que c'est 2 % d'à peu près 20 % de la population. C'est gigantesque et ça vient s'ajouter sur le travail d'un système de santé qui, comme vous le voyez, s'affuse de partout. Les cris d'alarme, les cris de désespoir. Un système qui a été lourdement épuisé par 18 mois de combat contre la pandémie.
À la question, est-ce que cette tendance à la baisse, là, de 1000 à samedi à 639 aujourd'hui, est-ce que selon vous, c'est une tendance lourde qui peut être encourageante ou on va être confronté à des pics, on va baisser, on va augmenter, on va diminuer en dents de scie, en fait? Est-ce qu'on va être face à ça? Selon vous?
Si on regarde les tendances sur des moyennes hebdomadaires, on voit qu'on gagne à peu près 100-150 cas par jour, par semaine de moyenne flottante. Et donc, je pense que le 1000 était au-dessus de cette moyenne-là, puis qu'aujourd'hui, on est un peu en dessous. On devrait s'attendre à se stabiliser autour de 700-750 cas par jour, je pense, dans la prochaine semaine. Mais il y a des choses quand même intéressantes qui se produisent avec l'épidémiologie de la COVID. Puis il est peut-être un peu tôt pour vous dire que c'est une tendance lourde, mais les Américains, qui ont pourtant pas changé grand-chose à leur modalité encore, enregistrent depuis deux jours une baisse de 6 % de l'incidence des cas dans leur population. Est-ce que c'est le reflet d'une lassitude face aux tests? Est-ce que c'est le reflet d'une tendance qui pourrait être appelée lourde dans quelques semaines quand on l'aura vue? Manifestement, le virus se heurte à de plus en plus de portes fermées qui sont les gens vaccinés ou déjà immunisés par le fait d'avoir fait une infection. Et ce virus-là, par défaut, son succès, sa contagiosité, sera sa destinée également. Parce que s'il réussit à infecter, puis le Delta est capable de le faire, la grande majorité de la population humaine, ben après avoir infecté une fois, il va se heurter à l'immunité naturelle de la population. Il va finir par, à défaut de disparaître, du moins devenir un virus plus courant qui ne causera pas les soucis que nous avons eus ces deux dernières années.
Docteur Simon, Mathieu Simon, je le rappelle, vous êtes pneumologue. Quand j'ai vu le chiffre de 1000, je me suis dit, ben là, voyons, je peux pas croire que ces 1000 cas, ou genre le 80% de ces 1000 cas sont imputables aux non-vaccinés. Il me semble que ça fait un gros chiffre pour des personnes qui sont non-vaccinées. Est-ce que je me trompe? J'essaie de voir le rationnel non-vacciné versus 1000 cas par jour au Québec. C'est quand même énorme.
Bien, c'est pourtant ce que les statistiques, tant au Québec qu'au Canada, que partout ailleurs dans le monde, montrent. C'est-à-dire que la proportion de non-vaccinés est plus importante dans les cas quotidiens, beaucoup plus importante chez les patients qui se présentent à l'urgence et infiniment plus importante chez les patients qui ont besoin de soins intensifs ou d'hospitalisation en général. Donc, la personne vaccinée peut très bien faire un COVID qui va l'amener à consulter son médecin, consulter à l'urgence, à se faire tester parce qu'il travaille dans un environnement où le test est mandatoire et se retrouver positif. C'était qu'il va passer le COVID avec quelques Tylenol puis un peu de bouillon de poulet, alors qu'il aurait pu le passer aux soins intensifs, n'eût été sa vaccination. Puis ça, c'est sans compter les chances qu'il a pris en se faisant vacciner de ne pas le transmettre à son environnement immédiat qui peut héberger des personnes non vaccinées ou plus vulnérables, même si elles sont vaccinées. Donc, la proportion 80-20 est probablement à peu près correcte. Mais encore une fois, en homme normando, j'ai l'impression que si on avait les chiffres absolus, là, s'il y avait moyen de détecter immédiatement tous les cas positifs au Québec, je pense qu'on serait plus dans une proportion de 90-95% de non-vaccinés. C'est juste que si tu t'es pas fait vacciner, pourquoi tu irais te faire tester? C'est parce que tu te crois invulnérable au virus. Alors, c'est sûr que si tu as le nez qui coule, la toux, un peu de température, ben si tu as choisi de pas te faire vacciner, tu n'iras pas te faire tester parce que tu te dis que tu veux pas être remis devant tes contradictions. Et de toute façon, tu ne crois plus ou moins à la présence du COVID.
Oui. L'auditrice qui nous écrit... Je vais vous redonner le numéro de téléphone, bien sûr, pour le bénéfice de vous, chers auditeurs, auditrices. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Est-ce que vous êtes préoccupé par cette augmentation de cas, même s'il y a une diminution? Toute chose étant relative, Dr Simon, une auditrice française nous écrit sur 8 500 000 personnes, 7 à 800 cas infectés non vaccinés, ça ne m'inquiète pas. Est-ce qu'on doit s'inquiéter d'un message comme celui que nous adresse Francine ou pas?
Ça dépend de ce qu'on appelle inquiéter. Si la tendance se maintient comme ça et qu'on gagne 100-150 cas par semaine de moyenne puis qu'on se rapporte un peu plus tard dans l'automne et que ça se traduit par des hospitalisations, parce que, Mme Normandeau, regardons aussi la fiche des hospitalisations, le tiers des personnes hospitalisées présentement le sont aux soins intensifs. Il y a 75-76 lits de soins intensifs qui sont occupés aujourd'hui par des patients COVID sur une capacité totale du système régulier, du moins, là, de hospitalier au Québec, qui avoisine les 600 lits, disons. Donc, ça veut dire qu'il y a 10-15% des lits de soins intensifs qui sont occupés, j'allais dire inutilement, mais c'est un peu ce que je pense, par des patients COVID dont la très, très grande majorité ont choisi de faire un COVID plus sévère parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Il y a des gens là-dedans qui ont été vaccinés, une très faible minorité, mais qui avaient une maladie immune, un cancer, qui a empêché le vaccin de prendre. Mais la très grande majorité des patients qu'on voit, c'est des gens de 40, 50 ans qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, qui se retrouvent à occuper un lit de soins intensifs. Ils y ont droit. Ce sont des citoyens qui ont besoin de soins de santé, mais occuper 15% des lits de soins et des infirmières de soins intensifs qui sont très rares, ben ça veut dire que le système doit faire des choix et on est au seuil de recommencer à, sans parler de délestage, parce que je pense pas que la vague va être suffisante pour faire du délestage massif, on est quand même en train de se questionner sur l'attribution des ressources. Et il y a des patients qui, eux, ont fait le bon choix de se faire vacciner, qui vont voir leur chirurgie, pourtant importante, se faire décaler un peu par la vaguelette COVID que nous avons présentement. Puis c'est inhomogène à travers le Québec. Hein. L'augmentation des hospitalisations présentement se fait essentiellement sur l'île de Montréal et dans sa périphérie immédiate, alors que les autres régions du Québec, dont Québec ici, sont relativement peu touchées à ce moment-ci par la quatrième vague.
OK. On doit aller à la pause, Dr Simon. Je ne veux pas abuser de votre temps. Est-ce que vous pouvez demeurer avec nous encore quelques minutes?
Bien sûr, puisqu'on a eu des défauts de son au début. Rattrapons-nous après.
Oui, excellent. J'ai une question pour vous parce que vous avez fait une déclaration qui m'a interpellée. J'ai très hâte d'apprendre à vivre sans le virus. Je vous demande après la pause, qu'est-ce que ça veut dire, Dr Simon, pour vous, apprendre à vivre sans le virus? Continuez de réagir à cette émission sur ce sujet. Le texto 98-98-5, on prend vos appels dans quelques instants.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normando.
Est-ce que vous êtes préoccupé par la hausse des cas de COVID? Une dernière question pour notre bon docteur, le docteur Mathieu Simon. Vous avez déclaré docteur Simon en TVA. J'ai très hâte d'apprendre à vivre sans le virus. Ça m'a interpellée parce que je me suis dit pourquoi cette déclaration alors que le ministre de la Santé, Christian Dubé, pas plus tard que la semaine dernière? Oui, alors oui, je vais répéter la question. Je pense que sur le plan technique, effectivement, petit problème. Donc, docteur Simon, Mathieu Simon, je disais il y a quelques instants, vous avez fait une déclaration sur les ondes de TVA en fin de semaine en disant, en affirmant, j'ai très hâte d'apprendre à vivre sans le virus. Ça m'a interpellé et je me pose la question, pourquoi une telle déclaration alors que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait une déclaration contraire sur sa page Facebook en disant, il faudra apprendre à vivre avec le virus. Qu'est-ce que vous aviez en tête en faisant cette déclaration, Dr Simon?
Madame Normando, je faisais le parallèle avec les autres virus qu'on a trouvés dans l'humanité. Le virus de la grippe est probablement le plus proche comparatif du COVID. Le virus de la grippe, puisque c'est un virus qu'on connaît depuis des siècles, sinon plus, on s'est développé un système immunitaire qui fait qu'à chaque saison, oui, il y a des malades, mais la vie n'arrête pas parce que la grippe nous frappe. Le COVID, on est capable de se donner une immunité plus rapidement pour deux raisons, parce que le virus est beaucoup plus contagieux et donc ceux qui sont partisans de l'immunité naturelle vont faire la maladie. On va tous la faire d'une forme, sous une forme ou une autre, et donc développer des anticorps. Et les plus sages ou les plus vulnérables d'entre nous auront obtenu ces anticorps par une vaccination qui est sécuritaire et disponible. Si bien qu'on peut entrevoir, après une période de vivre avec le virus comme une préoccupation, une période de vie sans grande préoccupation, mais ça demande, pour obtenir ça, pour apprendre à vivre sans le virus, ça demande du temps, mais surtout un projet de société qui est celui qu'on n'entend pas beaucoup, malheureusement, dehors de la bouche du gouvernement, celui de se donner la plus robuste immunité possible comme société pour que, justement, le COVID-19, sans qu'il ne disparaisse nécessairement, devienne un virus aussi bénin que les autres coronavirus qu'on a rencontrés dans le passé, qui, pour la majorité, sont des agents de rhume, de rhinite et autres choses. Alors, c'était mon cri du cœur. Je suis en train de préparer la session d'automne à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Je regarde tous les aménagements qui se font pour des gens qui seront des soignants plutôt, qui vont devoir apprendre la médecine par caméra interposée et sans pouvoir entrer en relation l'un et l'autre. Je suis inquiet pour ces gens-là, pour l'expérience qu'ils vont avoir et comment ça va se traduire pour la qualité de la médecine dans le futur. Je pense qu'on fait ce qu'on peut de mieux avec ce qu'on a, mais puis c'est pas seulement vrai des étudiants en médecine, manifestement. Écoutez, tous ces enfants au primaire et ailleurs qui sont privés de leurs relations usuelles, c'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Mais ça, après, une fois qu'on le dit, c'est pas mal plus utile d'aller se faire vacciner que d'aller faire une manifestation dans le Parlement ou sur la place Ville-Marie.
Docteur Simon, j'abuse encore un petit peu de vous. Quelques minutes avec nous, on va aller joindre les auditeurs qui souhaitent réagir. Peut-être qu'il y aura des questions pour vous, je ne sais trop. Jean-François, bonjour à vous, Jean-François.
Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission.
Merci, Jean-François.
Moi, ce serait pas une façon efficace, disons, de faire une distribution nationale à tout le monde de tests rapides et puis que tout le monde à une date fixe pourrait faire leurs tests et on détecterait l'ensemble des cas actifs au même moment.
Oui, intéressant.
Au lieu de courir après le vaccin tout le temps, courir après les tests à la pièce.
Oui, j'aime ça. Merci beaucoup, Jean-François. Vous parliez, Dr Simon, de projet de société là, pour arriver à apprendre à vivre sans le virus. l'idée, effectivement, de... C'est vrai, c'est peut-être une explication, le deux tiers des gens qui ne vont pas se faire tester parce que, bon, il faut aller au centre de dépistage et tout ça. Si on rendait les tests rapides plus accessibles, comme Jean-François le dit, est-ce que ce serait, selon vous, une hypothèse intéressante?
Ce serait une hypothèse très coûteuse et okay. Si on dépiste une population largement, qui est potentiellement à faible risque de l'avoir, il va y avoir beaucoup de tests faussement positifs. Donc ces tests-là ne peuvent pas être utilisés comme Jean-François le suggère, ce qui serait intéressant d'un point de vue épidémiologique, mais ce qui se heurte à beaucoup de problèmes de méthodologie. En fait, le danger, Mme Normandeau, c'est que admettons qu'on oublie qu'on est en 2021, autrement en 2018, vous avez l'impression que vous faites un influenza, là, une grippe. Vous avez le nez qui coule, vous toussez un peu, vous avez fait de la température. Ben, l'objectif, c'est pas d'aller à l'urgence pour vous faire tester pour la grippe, parce que vous avez, selon toute vraisemblance, vous l'avez, la grippe. Ce qui est important, c'est que vous alliez pas au travail contaminer le reste de la population, que vous alliez pas voir votre mère en résidence pour passer le virus dans la résidence. Et donc, je vous dirais que le testing, puis je vous le disais tantôt, le nombre de cas quotidiens, jusqu'à un certain point, m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact d'un virus qui est en train de devenir part de notre quotidien, l'impact sur le réseau hospitalier, l'impact sur la santé des gens. Donc, quelqu'un qui est peu symptomatique, qui se fasse tester ou non, bon, je vais vous dire, en homme de science, il devrait aller se faire tester parce que ça me permet de comprendre un peu la démographie du virus, mais je vais surtout vous dire, comme médecin, que cette personne-là, si elle ne se fait pas tester, du moins j'assume qu'elle va prendre ses responsabilités et ne pas aller contaminer d'autres gens autour d'elle et se comporter, peu importe ses convictions face au vaccin ou face à la COVID, se comporter de façon sécuritaire puis s'isoler pendant une dizaine de jours à la maison pour ne pas transmettre le virus à d'autres.
On va les joindre. Merci, Dr. Simon. Béatrice, qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Est-ce que ça vous préoccupe l'augmentation des cas, même s'il y a une tendance à la baisse depuis quelques jours? Bonjour, Béatrice.
Oui, bonjour.
Je vous écoute, ma chère.
Bon, ben c'est ça. Moi, j'ai eu ma première dose au mois de mai, le 19 mai. Et par des raisons, j'ai pas de raison vraiment valable, nécessairement pour me dire que j'ai attendu à la semaine passée pour me faire donner la deuxième dose, parce que ça a vraiment pas bien été la première dose. Donc, j'ai eu beaucoup de mal de tête, fatigue et tout. Et mal au bras surtout. Et comparativement à la semaine dernière, c'était le vaccin ARN Messenger. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et puis celle-là, my God, c'était... Ils m'ont dit que c'était la même chose que le premier, mais ça n'a même pas fait mal. J'ai même pas eu de douleur. Pas
mais
de fatigue, il n'y a rien pantoute. Même, je me sentais encore plus en forme que d'habitude. Puis je trouvais pas ça en vrai normal. Fait que tout le monde me disait, ben non, moi j'étais fatiguée, j'étais vraiment là. Fait que là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le vaccin, le même vaccin, le même composite? Je ne le sais pas.
Okay. On va poser la question. On va poser Béatrice la question. On va poser la question, Béatrice, à notre médecin, si vous souhaitez. Béatrice, Dr Simon, bon, il y en a qui ont des symptômes, d'autres non, d'autres pas, d'autres c'est avec une intensité évidemment différente. Un commentaire suite à l'expérience vécue de Béatrice, peut-être?
Écoutez, des expériences comme celle de Béatrice, j'en ai entendu quelques centaines, sinon plus. Et puis d'abord, félicitations d'avoir bravé sa réticence initiale pour recevoir la deuxième dose de vaccin. Puis merci de votre contribution à la société. Puis effectivement, Béatrice, il y a des gens qui vont recevoir le vaccin puis ils s'en rendront pas compte. D'autres qui vont passer quelques jours à avoir mal à l'épaule puis se sentir un peu fatigués, fiévreux même par moment. Ça n'a pas de corrélation avec ce qu'il y avait dans la seringue ou avec l'immunité qui s'engendre. Il y a une réponse inflammatoire qui est causée par n'importe quel vaccin et ça fait partie de la capacité du corps à réagir. Maintenant, pourquoi on est plus réactif à une dose qu'à l'autre, ça rentre encore dans les questions que la science se pose, mais c'est probablement... Si vous êtes vacciné alors que vous avez déjà une prédisposition inflammatoire parce qu'il y a une petite infection virale qui se terre chez vous sans trop le savoir, ben c'est sûr que le système immunitaire est déjà primé et qui va répondre plus fortement que si vous êtes dans un ciel bleu. Mais c'est là que je vais m'arrêter parce que la science n'en dit pas plus à ce moment-ci. Mais donc, je serais vraiment pas surpris. Puis je peux rassurer Béatrice et vos auditeurs, on n'a pas commencé à vacciner avec de l'eau distillée pour faire semblant. Puis ce n'est pas une perte d'efficacité du vaccin non plus que vous avez
reçu. Merci beaucoup de le spécifier parce que malheureusement, il faut le faire encore. On va aller joindre un dernier auditeur rapidement, Martin, mais un commentaire d'un auditeur qui nous dit qu'auditrice, mon garçon a 16 ans, il a un rhume, je vais le faire tester tantôt. Mais si ça s'avère négatif, c'est certain qu'il retourne à l'école demain. Il ne peut pas manquer 10 jours d'école. En fait, il a été vacciné 2 fois en passant. Il y a ça aussi, docteur Simon, qui joue, évidemment. Évidemment, la prudence commence. Mais si le test est négatif, pourquoi il devrait rester à la maison 10 jours, le garçon?
Techniquement, il n'y a pas de... S'il est symptomatique et que le test est négatif, c'est que ce n'est pas le COVID. La question des tests rapides dont on parlait tantôt, c'est que si on le fait alors qu'on n'est pas encore symptomatique, il existe une petite fenêtre où le test n'est pas encore positif chez quelqu'un qui va devenir symptomatique le lendemain, pour dire quelque chose. Ça varie beaucoup. Écoutez, je pense que là encore, les différentes recommandations qui ont lieu dans les différentes commissions scolaires, garderies, etc., sont toujours un peu plus prudentes que moins. Je ne les connais pas toutes, manifestement, parce qu'il y en a une infinie variété. Il faut suivre les recommandations locales, mais il ne faudrait surtout pas que quelqu'un se dise « je ne veux pas aller me faire tester pour me faire dire que j'ai le COVID pour ne pas retourner en classe ou retourner au bureau
oui. »
parce que ça veut dire qu'on va retourner au bureau, mais on va en envoyer plusieurs à la maison par la suite.
Exactement, on ne s'en sortira jamais. Dernier commentaire rapide d'un auditeur. Bonjour Martin, vous avez quelques secondes pour conclure ce segment.
Oui, très rapidement, premièrement, je veux remercier tous les médecins et je pense que le moindre respect... ce serait de tous aller se faire vacciner. Je ne sais pas ce qu'ils attendent pour mettre ça obligatoire. Tu mets le vaccin obligatoire à tout le monde de A à Z. Tu ne veux pas te faire vacciner? Parfait, on va le respecter. Par contre, tu te ramasses à l'hôpital parce que tu as le COVID et que tu n'as pas voulu être vacciné, bien, les frais inhérents à ça seront à tes frais, mon ami. Je pense qu'on est rendu là. Les médecins sont à bout de souffle. Nos centres hospitaliers sont débordés. Il va falloir, à un moment donné, qu'on dit là, c'est assez. On a été assez patients. J'ai les 2 vaccins. Tout le monde, je veux dire, c'est une intime partie qui met notre réseau de santé, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Moi, demain matin, je mettrai ça obligatoire à tout le monde. Tu veux
ça
pas? OK, parfait. Tu paieras les
frais. Merci, Martin. Ça vient du cœur. C'est moins qu'on puisse dire. Puis vous êtes nombreux à penser comme Martin. En conclusion, Dr Simon, moi, je tiens à vous remercier vraiment infiniment. Ça fait 2 fois que vous participez à l'émission. Vous êtes d'une patience, d'une générosité absolument extraordinaire. C'est très instructif ce que vous nous dites et c'est rassurant en même temps. Alors, Dr Mathieu Simon, merci. Je vous souhaite une belle semaine et puis évidemment un peu de répit dans votre vie.
Merci, Mme Normandeau. Merci à Martin pour ces bons mots que je transmettrai à tout le personnel de la santé. C'est pas juste les docteurs qui sont fatigués. Puis écoutez, moi, je suis très heureux de collaborer avec vous. Je pense que plus de gens, on va pouvoir rassurer sur la bonne chose à faire. Plus on va en parler, mieux c'est. Il y a des gens qu'on n'atteindra peut-être pas, mais au moins, on aura essayé. Puis c'est ce qui me réconforte.
Merci beaucoup, Dr Simon. Excellente journée. À bientôt.
Excellente journée à vous. Merci.
Bye-bye. Mathieu Simon, pneumologue et chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Alors voilà, c'est dit. Merci de votre participation très sentie pour ce segment. Après la pause, un autre sujet qui risque de vous faire réagir. Les commerces, le dimanche, le sujet est relancé. Est-ce qu'on doit les ouvrir ou les fermer? C'est dans quelques instants.